cru voir que l'exposé précédent était assez général. Effectivement, l'exposé que je vais vous faire est plus ciblé sur donc l'apport des archives glaciaires à la compréhension des climats du passé. Alors, voici le plan de mon exposé. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter en introduction pourquoi on étudie les carottes de glace, en fait, pourquoi on s'intéresse à ces archives climatiques. Puis ensuite, le reste de mon exposé sera décomposé en 6 parties. Les parties en violet seront des parties un petit peu méthodologiques sur le comment on extrait des informations climatiques des carottes de glace. Et les parties en noir seront plutôt des résultats sur donc ce qu'ont apporté les carottes de glace à la compréhension des mécanismes climatiques. Oui, je vais peut-être y arriver. Voilà, donc tout d'abord le contexte, vous le connaissez, je pense qu'on vous l'a rappelé. Les activités humaines modifient la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre notamment, elles ne modifient pas que ça, hein, également la teneur en aérosol et les propriétés de surface. Donc sur ces graphes, vous avez donc en haut ici la variation sur les 10 000 dernières années de la composition en gaz carbonique. Ici c'est pour le méthane et ici c'est pour l'oxyde nitreux. Donc ces graphes sont issus du dernier rapport IPCC paru en février dernier. Donc vous pouvez voir que globalement jusqu'à l'ère pré-industrielle, ces concentrations ont peu varié. Une variabilité qu'on pourrait qualifier de naturelle, même si certains pensent que, par exemple, la variation, l'augmentation du méthane ici lors des derniers milliers d'années pourrait déjà être le signe d'une modification de la composition atmosphérique par les activités humaines. Mais bon, en tout cas, ça restait des variations faibles. Et puis, depuis 2 siècles à peu près, des variations beaucoup plus abruptes, puisque par rapport à l'ère pré-industrielle, la composition en gaz carbonique a été multipliée par 1,35, celle en méthane par 2,30 et celle en protoxyde d'azote ou oxyde nitreux par 1,18. Alors parallèlement, on observe des changements climatiques un petit peu partout sur Terre. Vous avez le graphe du haut, l'évolution de la température telle qu'elle est mesurée à la surface de la Terre, en moyenne annuelle et en moyenne à la surface de la Terre. Et donc, on observe un réchauffement pour le dernier siècle de l'ordre de 0,74 degrés Celsius, réchauffement qui est significatif, hein, vous avez la barre d'erreur à côté. Et puis, disons que ça se réchauffe de plus en plus, puisque par exemple, si on regarde les 12 années les plus chaudes des enregistrements, il y en a 11 qui se trouvent dans les 12 dernières années. Hein, donc, à une exception près, les 12 dernières années étaient les 12 les plus chaudes des enregistrements. Vous avez au milieu ici l'évolution du niveau de la mer, niveau moyen de la mer. Donc, au XXe siècle, ce niveau des mers s'est élevé de 15 cm. Et puis, ce qui est un petit peu inquiétant également, c'est qu'on a l'impression que cette augmentation s'accélère, puisque si on regarde plus précisément la décennie 93-2003, qui est couverte par les observations du satellite Topex-Poséidon, on observe un changement du niveau de la mer de 31 cm par siècle, c'est-à-dire 2 fois plus que la moyenne du XXe siècle. Vous avez donc le dernier graphe ici, l'évolution de la surface de sol de l'hémisphère nord couvert par la neige au mois d'avril. Donc cette surface diminue. Et puis il y a bien d'autres signes du changement climatique, donc la variation de hauteur des sols, la diminution de hauteur des sols gelés, la banquise arctique qui fond à vue d'œil presque, et les glaciers continentaux par exemple. Voilà, alors dans ce contexte, pourquoi la paléoclimatologie? Eh bien, je dirais que c'est le seul moyen d'avoir des expériences climatiques. Le climat, c'est une grosse machine avec une taille énorme, et on ne peut pas mettre ce système dans un laboratoire pour l'étudier comme on fait avec d'autres systèmes physiques. Voilà, on ne peut pas s'amuser à le perturber un petit peu et regarder quelle est sa réponse. Donc le seul moyen d'avoir des expériences, c'est d'aller les chercher dans le passé. Donc ça va nous permettre par exemple de déterminer la variabilité naturelle du climat, hein, donc voir dans quelle mesure le changement climatique qu'on observe actuellement sort ou non de cette variabilité naturelle. Ça va nous permettre de déterminer des mécanismes climatiques, notamment pour les composantes qui ont des constantes de temps beaucoup plus grandes que celles de nos observations. Typiquement, on arrive bien à étudier le système atmosphérique parce que ça a des constantes de temps en général de quelques années. Donc on a des observations qui sont suffisamment longues pour arriver à comprendre les mécanismes. Par contre, quand on étudie l'océan qui a des constantes de temps, donc de l'ordre du millier d'années pour la circulation thermohaline, ou encore pire, les calottes qui ont des constantes de temps de plusieurs dizaines de milliers d'années, là, les observations ne suffisent plus et donc il faut aller chercher des informations dans le passé. D'autre part, et pour finir, donc ça va nous permettre de tester nos modèles climatiques qui vous ont été présentés précédemment sur des conditions différentes de l'actuel, les mêmes modèles qui vont servir à faire les prédictions pour le siècle à venir. Alors, donc sur ce graphe, vous avez donc une courbe d'évolution de la température de la Terre au cours de son histoire. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le climat de la Terre a considérablement varié. La Terre a connu des périodes très chaudes, beaucoup plus chaudes que l'actuelle, très froides, où elle était peut-être entièrement englacée. Donc, ces variations climatiques ont été dues aux variations de luminosité, enfin d'énergie reçue par le Soleil, à la formation des océans, à la tectonique des plaques, qui a induit des fermetures ou ouvertures de détroits, qui a induit des changements de relief, des modifications de l'érosion, etc., à l'activité volcanique et également donc aux gaz à effet de serre. Voilà, donc à l'échelle de la Terre, je dirais que là, on se trouve dans une période tempéré, puisqu'il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes et beaucoup plus froides. Alors si on zoome un petit peu, qu'on regarde cette fois-ci les derniers 70 millions d'années, donc l'actuel se trouve tout en haut, on observe encore également des variations climatiques importantes, variations climatiques que l'on peut mettre en relation avec des événements tectoniques, comme par exemple l'ouverture ici du passage entre la Tasmanie et l'Antarctique, etc. Et donc, ces variations climatiques ont eu des incidences sur la présence d'espèces vivantes à la surface de la Terre, bien sûr. Les carottes de glace vont couvrir grosso modo, le dernier million d'années, comme on va le voir. Donc, c'est tout en haut de ce graphe. Lors de ce dernier million d'années, les variations de tectonique ont été faibles. Donc, les variations climatiques ne peuvent pas s'expliquer uniquement par ces variations tectoniques. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Pardon. Donc voici les forages qui ont été effectués sur la calotte antarctique, les principaux forages, il y en a eu d'autres, mais moins profonds. Donc ce sont ceux qui remontent le plus loin dans le temps. Donc vous voyez qu'il y en a en gros une petite dizaine. C'est des opérations qui sont quand même difficiles techniquement, coûteuses, et qu'on effectue dans des milieux assez extrêmes. Alors, on reparlera un peu plus loin du forage de Vostok qui se trouve ici. Je ne sais pas si j'ai un pointeur, si ça c'est un pointeur. Voilà, donc du forage Vostok, donc qui a marqué cette discipline dans les années 80 et 90. Et puis plus récemment, donc on a effectué le forage de Domsé qui couvre, comme on va le voir, 800 000 ans, alors que celui de Vostok n'en couvrait que 420 000. Donc voilà également les principaux forages effectués au Groenland. Donc les forages de Gispe 2 et de Grippe ont marqué également les recherches paléoclimatiques au début des années 90. Et puis donc plus récemment, dans les années 2000, on a effectué le forage à North Grip, qui remonte un peu plus loin également dans le temps. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est des opérations donc difficiles techniquement qu'on effectue dans des milieux assez extrêmes. Donc là, juste un petit rappel des conditions à Domsé, donc qui se trouve sur cette calotte polaire, donc qui est un grand plateau glaciaire avec plusieurs kilomètres de glace. Donc l'altitude de Dôme C, c'est 3200 et quelques mètres. Température moyenne de l'ordre de moins 55 degrés, puis des températures extrêmes en hiver qui peuvent descendre jusqu'à ici moins 82, hein, donc un record qui était atteint le mois dernier. Donc c'est un endroit donc, qui se trouve assez loin des bases logistiques qui se trouvent sur la côte. Donc la base française du Mont-d'Urville se trouve à 1100 km et la base italienne Terra Nova se trouve à 1200 km. Donc les ravitaillements s'effectuent par avion ou également par des traverses avec ce genre d'engin. Voilà, donc je vous ai parlé du forage à Dôme C. Donc c'était un projet européen qui impliquait 10 nations. Ce forage s'est passé en deux temps avec un premier forage jusqu'à 780 mètres qui a malheureusement échoué puisque le carottier s'est bloqué au fond du forage. Donc dans ces cas-là, c'est un petit peu difficile. La seule chose qu'on peut faire, c'est tirer très fort sur le carottier et espérer qu'il remonte, mais ça n'a pas été le cas. Et puis donc un deuxième forage qui a démarré en 99 pour atteindre la profondeur de 3270 mètres en 2004-2005, donc tout près du socle rocheux, hein. Donc le forage s'est arrêté à ce moment-là. Voilà, donc comment se passe techniquement un forage? Donc on utilise cet instrument qui s'appelle un carottier. Donc c'est un instrument qui fait cylindrique, hein, comme vous voyez, qui fait une dizaine de mètres de long, une quinzaine de centimètres de diamètre. Donc, bon, schématiquement, vous voyez, le carottier est composé de deux tubes, un tube externe ici et puis un tube interne. Donc le tube externe est fixe et le tube interne va tourner. Donc ce tube interne est surmonté d'une tête de carottier hein, donc qui possède des couteaux. Donc ces couteaux vont découper la glace à mesure que le carottier descend. Les copeaux vont être remontés par cette hélice hein, entre les deux tubes pour être stockés dans des chambres qui se trouvent ici, chambres à copeaux. Et puis, donc, une fois que cette carotte de 2 à 3 mètres de long est forée, on la remonte à la surface. On la casse tout d'abord, hein, avec ces petits hameçons ici, qui permettent d'attraper la carotte et de la casser à sa base. Et donc, on remonte tout ça à la surface. On sort le tube interne ici, par un système de treuil. Ensuite, on démoule la carotte. Et puis, on la stocke quelque part en attendant de l'analyser et de la découper. Voilà, et puis ensuite on recommence, c'est-à-dire on redescend le carottier au fond du trou grâce au câble. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces carottes de glace? On trouve, je dirais, on analyse quatre choses différentes. On analyse la composition isotopique de la glace. Hein, vous avez ici, donc, sur cette photographie, les différents cristaux de glace qui apparaissent en couleur. Et les bulles d'air et également les impuretés. Donc, on va analyser la composition isotopique de la glace, comme on verra un petit peu plus loin, qui nous renseigne sur la température de surface au moment où la neige s'est déposée. On va analyser toutes les impuretés qu'on retrouve dans la glace, hein, donc les aérosols, qu'ils soient d'origine continentale, d'origine océanique, d'origine volcanique ou d'origine extraterrestre. On va analyser également les cristaux, donc leur taille, leur forme, l'orientation cristalline, donc qui va nous renseigner sur les contraintes et déformations que la glace a subies à partir du moment où elle s'est déposée jusqu'à maintenant. Et puis enfin, les glaces polaires ont cette propriété assez géniale de renfermer des petites bulles d'air qui sont presque de manière directe, des échantillons de l'atmosphère du passé. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez génial, comme je vous le disais, puisque souvent en paléoclimatologie, les reconstructions sont très indirectes. Elles nécessitent des modèles pour arriver à interpréter ce que l'on mesure, alors que là, pas vraiment besoin de modèles, puisque c'est quasiment directement donc des échantillons de l'atmosphère du passé. Donc il suffit de mesurer la composition de l'air de ces bulles. Ce qui est tout de même difficile parce que les échantillons sont de très petite taille, mais si on arrive à le faire, on a directement la composition des atmosphères passées. Alors, on mesure également d'autres choses dans le trou de forage, par exemple la température ou les mouvements du trou. Alors, donc, comment se forment ces bulles de gaz? Alors, elles ne se forment pas en surface, elles se forment à environ une centaine de mètres de profondeur, donc à une profondeur qu'on appelle close-off en anglais, où les bulles se ferment, c'est-à-dire qu'en surface, la neige est peu dense. Donc l'air peut circuler relativement librement, en tout cas diffuser relativement librement. Et puis à partir d'une certaine profondeur, la neige est tellement dense que la glace commence à se refermer sur les pores. Et donc c'est à ce moment-là que les bulles se ferment. Donc vous avez sur ce graphe ici en fonction de la profondeur, l'évolution de la densité, hein, ce sont les étoiles bleues. Donc qui varie de 0,3, 0,35 en surface à donc 0,9 à peu près, densité relative au niveau du close-off. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la porosité fermée, c'est-à-dire la proportion volumique de bulles fermées, hein, donc qui atteint un maximum ici au moment du close-off, pour ensuite redécroître puisque les bulles sont ensuite comprimées. Voilà, donc c'est bien, mais par contre, ça induit quand même une difficulté pour l'analyse de ces carottes de glace, c'est que en fait, les gaz diffusent très très rapidement dans cette colonne, quelques dizaines d'années, on va dire typiquement. Donc, en première approximation, on va dire que le signal gaz est enregistré à la profondeur du close-off. Par contre, le signal, donc tout ce qu'on mesure dans la glace, lui, il est enregistré en surface. Et ça induit, quand on va analyser nos carottes de glace, une différence d'âge entre la glace et les bulles de gaz. Différence d'âge qui dépend des conditions du site, c'est-à-dire par exemple qui va dépendre de l'accumulation de neige en surface, et donc qui peut varier de quelques centaines d'années à plusieurs milliers d'années pour les sites à plus faible accumulation. Voilà, alors je reviens maintenant sur les isotopes stables de l'eau. Donc on ne voit pas grand-chose sur mon graphe, malheureusement. Mais donc vous savez que les atomes d'oxygène et d'hydrogène, notamment, possèdent des isotopes, c'est-à-dire des formes plus lourdes que les molécules classiques, parce qu'elles possèdent davantage de neutrons dans leur noyau. Hein. Donc, par exemple, l'oxygène a un numéro atomique de 16, et on parle de l'oxygène 18 pour les atomes d'oxygène qui ont deux neutrons en trop. De la même manière, l'hydrogène a un numéro atomique de 1, et on va parler de l'hydrogène 2 ou deutérium pour les atomes qui ont un neutron supplémentaire dans le noyau. Voilà, alors, donc les concentrations des isotopes lourds sont très faibles. Hein, donc, par exemple, dans l'eau de mer, le rapport oxygène 18 sur oxygène 16 est de l'ordre de 2000 parties par million, c'est-à-dire 2 pour 1000. Et puis le rapport deutérium sur hydrogène est de l'ordre de 155 parties par million, c'est-à-dire 0,1 pour 1000. Voilà, alors, comme ces rapports sont très faibles et en plus varient très peu, on va utiliser la notation delta pour les caractériser. C'est-à-dire qu'on va prendre le rapport isotopique d'un échantillon, on va le diviser par un rapport isotopique standard hein, qu'on a déterminé. Et donc, comme ces rapports varient très peu, on exprime leur variation en pour 1000, c'est-à-dire qu'on va retrancher un et multiplier par 1000. Voilà. Hein, donc, on va dire qu'un échantillon, par exemple, a une composition 2 pour 1000, de 2 pour 1000 supérieure ou inférieure au standard. Alors, dans la nature, beaucoup de fractionnements isotopiques, de variations de la composition isotopique, sont dues en fait à la différence de masse entre les isotopes, ce qu'on appelle les fractionnements dépendants de la masse. Et en fait, donc, on voit que le rapport de différence de masse sur la masse de l'atome est 8 fois plus important pour l'oxygène que pour l'hydrogène. pardon, c'est l'inverse pour l'hydrogène que pour l'oxygène, ce qui va induire souvent un facteur 8 dans les compositions isotopiques en oxygène et en hydrogène de l'eau à la surface de la Terre. Voilà, donc on va définir l'excès en deutérium comme le delta 18O moins 8 fois la composition, moins 8 fois le delta D. Alors, qu'est-ce que c'est que le thermomètre isotopique? C'est-à-dire comment on fait pour reconstruire les températures passées à la surface de la Terre à partir de la composition isotopique? Ben, tout a démarré à partir de là. C'est-à-dire que les scientifiques se sont rendus compte qu'à la surface des calottes polaires, notamment, si on allait se promener et qu'on traçait donc ici en abscisse la température du site et en ordonnée la composition isotopique de la neige de surface, eh bien, les points se trouvaient assez bien alignés sur une droite, ici, pour l'Antarctique, hein, donc c'est la Terre, ces mesures ont été effectuées en Terre Adélie, et ici pour le Groenland. D'où l'idée d'utiliser cette relation pour déterminer la température d'un site dans le passé. Alors pourquoi ces points sont alignés sur une droite? Eh bien, donc, on peut l'expliquer schématiquement en imaginant une masse d'air qui va se charger en vapeur d'eau, donc principalement au niveau des zones équatoriales, hein, c'est là où la température est très chaude. Donc c'est là où les masses d'air peuvent contenir beaucoup de vapeur d'eau. Et puis ensuite, cette masse d'air va se déplacer progressivement vers les régions polaires et se refroidir. Et donc, à cause de la relation de Clausius-Clapeyron, elle va se condenser progressivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va perdre préférentiellement ses isotopes lourds lors des phases de condensation. Ce qui fait qu'à la fin, elle va contenir principalement les isotopes légers quand elle arrivera au niveau des calottes polaires. Et donc, plus il fait froid au site considéré, moins il restera d'isotopes lourds, en fait. Plus elle se sera condensée, donc moins il restera d'isotopes lourds. Donc l'allure linéaire peut s'expliquer assez facilement à l'aide d'un petit modèle de distillation de Rayleigh. Alors, le problème, c'est est-ce que cette relation qu'on observe actuellement à la surface des calottes polaires entre la composition isotopique et la température de surface du site peut être utilisée comme un thermomètre isotopique, c'est-à-dire comme une relation temporelle, cette fois-ci, entre l'isotope et la température. Alors, quand on réfléchit au processus physique, on voit qu'il y a plusieurs limites. Par exemple, l'origine des précipitations, dans notre petit modèle de Rayleigh, on suppose que, en gros, le trajet des masses d'air est constant dans le temps et que donc les conditions à la source des masses d'air sont constantes dans le temps également, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est même pas le cas. Et puis, on va aussi supposer que les conditions de température de surface d'un site peuvent être reliées aux conditions de température lorsque la neige se dépose, parce que lorsque la neige se forme, pardon. Parce que le problème, c'est que la neige ne se forme pas en surface, elle se forme typiquement en Antarctique ou au Groenland à une certaine altitude, au niveau de ce qu'on appelle la couche d'inversion. Donc on va déjà supposer que la relation entre la température de la couche d'inversion et la température de surface est constante dans le temps. Et puis, on va également supposer que la température lors de la condensation est caractéristique d'une température moyenne annuelle. Parce qu'en fait, les précipitations ne se forment pas toujours, par exemple, à la même saison. Hein, donc, il faut imaginer que la température lors de la condensation est caractéristique de la température moyenne annuelle. Voilà, donc on peut utiliser ces limites grâce à des modèles, comme on le verra un petit peu plus loin. Alors, donc, les scientifiques ont vu que ce thermomètre isotopique pouvait avoir des limites, et donc ils ont cherché des méthodes alternatives pour reconstruire la température d'un site dans le passé. Alors, une méthode alternative, c'est d'utiliser la température qui est mesurée dans les trous de forage. Car effectivement, cette température enregistre les variations de température de surface qui sont ensuite advectées en profondeur avec la glace qui est elle-même advectée en profondeur grâce à son accumulation successive en surface et son écoulement. Alors il y a tout de même une limite à ça, c'est que la température dans la glace diffuse, même si la glace est un isolant, elle diffuse quand même avec le temps, ce qui fait que les variations de température de surface sont progressivement atténuées au cours du temps quand on les mesure en profondeur dans la glace. Alors vous avez ici sur ce graphe, donc en fonction de la profondeur, les températures qui ont été mesurées à grippe, c'est la courbe bleue. Et puis, vous avez les températures, cette fois-ci, simulées par un modèle en supposant que la calotte est dans un état stationnaire, c'est-à-dire que les températures en surface sont restées constantes au cours du temps. Et vous voyez tout de suite que les deux courbes sont différentes, et notamment, donc, la courbe bleue contient la température de surface du dernier maximum glaciaire, qui était beaucoup plus froid que l'actuel. Et donc c'est pour ça que la température mesurée est plus froide que la température, significativement plus froide que la température modélisée. Alors on peut ensuite faire un petit exercice qu'on appelle méthode inverse, problème inverse, qui consiste à rechercher quel est le scénario de surface, de température de surface qu'il faut mettre en entrée d'un modèle pour obtenir la température mesurée. Donc c'est un exercice qui a été fait donc il y a une dizaine d'années par des collègues danois ici pour le Groenland. Et donc vous avez ici les reconstructions de température au Groenland, donc ici sur la période de 0, c'est-à-dire 0 après le Christ jusqu'à maintenant, 0 à 10 000 ans dans le passé ou 0 à 100 000 ans dans le passé. Donc vous voyez la présence ici par exemple du petit maximum, du petit âge de glace, ou ici la présence de l'optimum médiéval. On retrouve également la présence de l'optimum holocène, ce qu'on appelle l'optimum holocène, il y a une dizaine de milliers d'années, là où la configuration orbitale de la Terre était différente de l'actuelle. Et puis, donc à plus longue échelle de temps, on retrouve également le dernier maximum glaciaire. Une autre méthode alternative donc, pour reconstruire les variations de température en surface dans le passé provient de la composition isotopique des bulles de gaz. Alors, vous avez sur ce graphe donc la température mesurée dans le névé. Donc, température qui est relativement constante ici, sauf pour la dernière dizaine de mètres, car on retrouve les variations saisonnières qui sont diffusées en surface. Et puis, donc vous avez ici encore la variation de densité dans le névé, comme on l'a vu précédemment. Et vous avez ici cette courbe bleue, c'est la composition isotopique de l'argon 40 dans l'air. Et en rouge, la composition isotopique en azote 15 de l'air également. Alors, première chose qu'on observe, c'est un enrichissement en isotope lourd au fur et à mesure qu'on descend dans le névé. Et donc, qui est grosso modo 4 fois plus important pour l'argon 40 que pour l'azote 15. Alors ceci, c'est dû au fait que les isotopes lourds tombent, si on veut, préférentiellement au fond du névé. Deuxième chose qu'on observe, c'est cette variation en composition isotopique près de la surface. Alors celle-ci, elle est due au gradient de température donc, qu'on observe ici. Car il faut savoir que les isotopes lourds vont se diriger principalement, préférentiellement également, vers les zones froides du névé lorsqu'il y a un gradient de température. Alors c'est cette deuxième propriété qu'on va utiliser pour calibrer notre thermomètre isotopique, c'est-à-dire que s'il y a une variation de température abrupte en surface, ça va induire un gradient de température dans le névé. car les températures diffusent en fait assez lentement, hein, comparé en tout cas aux isotopes. Et donc, ça va induire un fractionnement thermique de nos isotopes. Et comme on peut mesurer ces isotopes dans les bulles de gaz, on va pouvoir en déduire quelle était la variation de température en surface dans le passé. Alors, cette méthode isotopique, elle marche, comme vous aurez pu le deviner, à des moments où on a des variations abruptes de température. Hein, ça marche seulement à ces moments-là. Donc vous avez ici sur ce graphe la comparaison des variations de température donc au Groenland. Hein, on reparlera de ces événements de Dansgaard-Oeschger un peu plus tard. Variation de température donc en noir donnée par le thermomètre isotopique et en couleur donnée par les méthodes alternatives, notamment la méthode des isotopes des gaz. Et vous voyez qu'en fait, au Groenland, dans le passé, le thermomètre isotopique sous-estime toujours significativement les variations de température. Alors, un dernier moyen de tester ce thermomètre isotopique, c'est d'utiliser des modèles de circulation générale de l'atmosphère, donc qui vous ont été présentés dans l'exposé précédent, si j'ai bien compris. Donc, à partir d'une représentation qu'on se fait de la Terre, on va déterminer les équations physiques qui la régissent et puis ensuite mettre ça dans des ordinateurs pour obtenir des simulations. Donc là, dans ces modèles de circulation générale de l'atmosphère, on a inclus également les isotopes de l'eau, donc tous les processus qui vont induire un fractionnement, une modification de la composition isotopique de l'eau. Et vous avez donc toujours le même graphe, c'est-à-dire composition isotopique et température. Donc simulé par, ce sont les précipitations ici en Antarctique, simulées par le modèle pour différentes périodes. Hein, le moderne est en rouge, et puis ensuite, ici, c'est la période la plus ancienne, en violet. Et vous voyez que ce modèle reproduit assez bien, même pour des périodes assez différentes dans le passé, une relation linéaire entre composition isotopique des précipitations et température de surface. Par contre, ce même modèle appliqué au Groenland reproduit un déplacement, une translation de cette relation linéaire entre isotopes et température pour les périodes glaciaires, ce qui veut dire que le thermomètre isotopique ne peut pas, a priori, être appliqué. Alors, pourquoi il ne peut pas être appliqué directement? Donc, c'est également le modèle qui semble nous donner l'explication. Vous avez ici la température, la précipitation et la composition en oxygène 18 simulée par le modèle, donc toujours pour nos différentes périodes, donc en fonction des mois de l'année. Alors en fait, ce que montrent les modèles, c'est que lors des périodes glaciaires, les précipitations au Groenland s'effectuent davantage en été. Hein. À l'actuel, elles s'effectuent principalement donc, en septembre-octobre. C'est le maximum des précipitations. Par contre, pendant les périodes glaciaires, ce maximum se situait plutôt en juillet. Donc, en fait, la température que l'on mesure se déplace hein, au cours de la saison, ce qui fait que ce n'est pas une bonne mesure de la température moyenne annuelle. Voilà, c'est pour ça qu'elle a tendance à sous-estimer les variations de température. Donc, en résumé, pour l'Antarctique, on a l'impression que le thermomètre isotopique fonctionne bien, même si ça doit être vérifié, notamment on va le vérifier grâce à la méthode des températures dans les trous de forage, il y a des mesures qui sont prévues très prochainement. Mais par contre, pour le Groenland, l'isotope fonctionne qualitativement pour représenter les variations de température, mais quantitativement, il ne fonctionne pas à cause de ce changement de saisonnalité. Voilà, alors j'en viens chose découverte ou disons confirmée en tout cas dans les carottes de glace, ce sont les variations du climat de la Terre dues aux variations des paramètres, ce qu'on appelle les paramètres astronomiques. ou paramètres orbitaux de la Terre. Alors, je crois que vous allez en reparler, notamment lors des ateliers, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous savez sans doute que la Terre décrit une ellipse. L'orbite de la Terre est une ellipse autour du Soleil. Le Soleil est un des foyers de l'ellipse. Cette orbite varie au cours du temps, c'est-à-dire qu'elle s'aplatit plus ou moins. Et ça, c'est dû à l'attraction des autres planètes du système solaire sur la Terre, hein, notamment Jupiter. Donc, ces variations peuvent être calculées très précisément grâce à des modèles mathématiques. Et, donc, on retrouve dans les variations d'excentricité, hein, donc l'excentricité, c'est ce qui caractérise l'aplatissement de l'ellipse, des périodes principales de variation pour les derniers millions d'années de 100 000 ans et 400 000 ans. C'est ce qui est représenté sur ce graphique ici. Hein, donc 100 000 ans, ce sont ces variations, 400 000 ans, ce sont celles-là. L'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport à l'écliptique, hein, c'est-à-dire le plan d'orbite de la Terre autour du Soleil. Mais cette inclinaison, donc, qui est actuellement de 23 degrés, varie également au cours du temps, globalement, enfin, grosso modo entre 22 et 24 degrés pour le dernier million d'années, par exemple. Et donc, la périodicité principale de variation est 41 000 ans dans ce cas. Et puis ensuite, troisième chose qui est importante, alors, donc, on voit bien que quand la Terre est plus proche du Soleil, elle va recevoir plus d'énergie de la part du Soleil. Hein, ces variations d'énergie peuvent être de 10% lors d'une excentricité maximale, hein, d'un aplatissement maximal de l'ellipse, entre la position proche du Soleil ou la position lointaine du Soleil, ce qui va induire, entre guillemets, des saisons, même si ce ne sont pas les saisons classiques. Alors en fait, les saisons classiques, elles sont liées à l'obliquité, c'est-à-dire que ici, dans cette configuration, par exemple, la Terre va pointer son pôle sud vers le Soleil, ce qui fait que dans l'hémisphère sud, les jours seront plus longs, et en plus, l'angle d'incidence des rayons du Soleil sur la Terre sera plus vertical. Hein, donc ici, dans cette configuration, ce sera l'été de l'hémisphère sud. Alors, ce qui est important, c'est la direction de l'axe de rotation de la Terre par rapport à la direction du grand axe de l'ellipse. Parce que ça va induire que, par exemple, si on est dans cette configuration-là, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs, la Terre est loin de l'hémisphère nord, est loin du Soleil, pardon, lors de l'été de l'hémisphère nord, ce qui fait qu'on a des étés qui sont relativement peu chauds. Mais par contre, elle est proche du Soleil lors de l'hiver de l'hémisphère nord, ce qui fait qu'on a également des hivers relativement doux. Hein, par contre, c'est le contraire pour l'hémisphère sud. En ce moment, on a des saisons contrastées. C'était le contraire il y a environ 10 000 ans, puisque les périodes de variation de cet angle de précession sont de 23 et 19 000 ans. Voilà, alors... Donc, dès le 19e siècle, certaines personnes avaient prédit que les variations de paramètres orbitaux de la Terre devaient avoir une influence sur le climat de la Terre. Ça a été au départ confirmé grâce à l'étude des carottes marines et ensuite un peu plus tard par les carottes de glace. Hein, donc, on voit ici en bleu la variation de température en Antarctique reconstruite à partir du forage de Vostok. Et puis, ici, en violet, les variations d'obliquité de la Terre, et en vert, les variations de précession. Hein. Donc, à l'œil nu, on peut déjà retrouver ces cycles, par exemple, d'obliquité. Ici, un premier cycle, un deuxième, un troisième, etc. Encore un cycle d'obliquité ici. Et également, les cycles de précession, comme ceux-là. Donc, on peut le faire de manière un peu plus rigoureuse, en faisant une analyse spectrale des signaux, et donc en s'apercevant qu'on retrouve bien les mêmes fréquences que... les fréquences de variation des paramètres orbitaux. Donc ceci, ça a été confirmé plus récemment, grâce au forage à Dôme C, hein, qui couvre cette fois-ci 800 000 ans. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on sait que les variations climatiques lors du quaternaire ont été gouvernés par les variations de paramètres orbitaux, même si le lien entre les variations d'insolation et les variations de climat est complexe, et pas encore complètement compris. Par exemple, les variations climatiques, si je reviens un petit peu en arrière, sont caractérisées par des cycles à 100 000 ans en dents de scie, alors qu'on ne retrouve pas de tels cycles dans les variations d'insolation. Alors, je vais passer à une autre partie un petit peu méthodologique qui concerne cette fois-ci la datation des archives glaciaires. Comment on date la glace et les bulles de gaz? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les méthodes radiométriques classiques, donc par exemple le carbone 14, les méthodes d'uranium-thorium ou les méthodes basées sur l'argon, ne sont pas applicables aux carottes de glace. Parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment de matière à analyser dans les carottes de glace. Donc, on a dû développer des méthodes alternatives pour dater ces archives glaciaires. Donc, par exemple, la comparaison aux paramètres orbitaux. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme on retrouve les mêmes variations, on peut simplement compter les cycles dans les carottes de glace et obtenir une première datation grossière donc, de l'archive. On peut également comparer nos carottes de glace à d'autres enregistrements qui sont bien datés, eux souvent par les méthodes radiométriques classiques. Et puis, il y a également une troisième approche par modélisation. Alors, l'approche par modélisation consiste simplement à dire que l'âge de la glace a une certaine profondeur Z. Peut être obtenu en comptant les années, hein, c'est-à-dire compter les années, on prend l'épaisseur d'une couche annuelle, par exemple, je sais pas, en Antarctique, ça va être typiquement 2 cm représente un an, on prend son inverse, donc on va dire 1 mètre représente 50 ans, et puis on va intégrer cela de la surface jusqu'à la profondeur Z. Alors comment on fait pour connaître l'épaisseur d'une couche annuelle? En fait, c'est cette épaisseur de couche annuelle, elle est égale à l'épaisseur initiale de la couche, qui est en fait l'accumulation en surface, multipliée par ce qu'on appelle la fonction d'amincissement, c'est-à-dire à quel point la couche de glace a été comprimée mécaniquement. L'accumulation en surface peut être déduite de la composition isotopique de la glace, hein, comme la température peut être déduite de cette composition isotopique. Je n'entrerai pas dans le détail, mais donc par un modèle de distillation de Rayleigh, on peut voir que ces deux choses sont reliées également. Et puis, l'amincissement peut être déduit d'un modèle d'écoulement de la glace, un modèle mécanique d'écoulement. Ensuite, la troisième chose, c'est qu'il faut calculer l'âge des bulles de gaz. Alors ça va être fait en connaissant donc, la profondeur à laquelle les bulles se ferment et le profil de densité dans le névé. Hein, donc, ce profil de densité est issu également d'un modèle un modèle mécanique de densification de la neige. Ah oui, voilà, ça c'était une diapositive pour illustrer le calage orbital. Hein. Donc, il y a différents signaux qui peuvent être utilisés pour caler les carottes de glace sur les variations des paramètres orbitaux. Un signal souvent utilisé, c'est celui de la composition isotopique en oxygène 18 des bulles de gaz, parce que ce signal présente des variations liées à l'excentricité qui sont assez évidentes. Hein. Donc c'est très facile ensuite de recaler ces variations aux variations d'insolation ici. Bon, malheureusement, ce n'est pas très précis, puisqu'on fait une hypothèse sur ce qu'on appelle la relation de phase entre les variations d'insolation et les variations de ce paramètre, et donc ça ne nous permet pas d'étudier en détail la relation de phase entre l'insolation et le climat, c'est-à-dire combien de temps, par exemple, le climat met pour réagir à un changement d'insolation. Alors, plus récemment, donc, on a développé une méthode qui est basée sur le rapport entre l'oxygène et l'azote des bulles de gaz. Donc on ne comprend pas encore entièrement pourquoi, mais ce rapport, donc, qui est représenté ici, ressemble comme deux gouttes d'eau à l'insolation locale du site. Donc il y a visiblement un processus physique qui fait que ces deux paramètres sont liés. Cette fois-ci, il n'y a pas d'hypothèse climatique sur la relation entre l'insolation et le rapport O2 sur N2, c'est simplement un lien physique. Et donc, la relation de phase entre l'insolation et le climat pourra être étudiée. Voilà, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Alors, pour dater la glace, on va également comparer nos carottes de glace à des enregistrements bien datés. Alors, on retrouve par exemple des couches de cendres volcaniques. Vous voyez ici une magnifique couche de cendres de plusieurs centimètres d'épaisseur, issue du forage de Talos Dome. En général, il n'y a pas suffisamment de matière pour dater ces couches de cendres. Par contre, on peut les relier à d'autres, à des éruptions volcaniques connues et qui vont être datées, par exemple, en analysant les laves volcaniques. Voilà, donc vous voyez ici, en fait, c'est encore la présence de ces couches de cendres dans la glace, mais cette fois-ci à proximité du volcan. Et ce qu'on appelle des zones de glace bleue, c'est-à-dire qu'il y a de l'ablation en surface, qui fait que les couches, au lieu de remonter le temps en descendant en profondeur, cette fois-ci, on remonte le temps en se baladant à la surface de la calotte. Donc ça nous permet de retrouver ces couches de cendres horizontalement. Et donc cette fois-ci, il y a suffisamment de matériel volcanique pour dater l'éruption. Voilà, donc ensuite, on peut relier ça à une carotte de glace faite à l'intérieur du continent et à obtenir un âge. Une autre méthode qui a été appliquée, c'est le comptage des couches annuelles, donc qui peut être faite sur des sites à forte accumulation, hein, lorsque un signal saisonnier est préservé, et donc également qui n'est pas applicable au fond des forages parce que là, l'amincissement vertical est trop important. Hein, vous voyez ici un exemple de donc, différents signaux présentant des variations annuelles, et on a représenté donc avec ces lignes grises les différentes années. Hein, donc c'est basé sur différents paramètres pour éviter les erreurs d'appréciation, et également sur différentes personnes vont effectuer ce comptage pour également éviter les erreurs d'appréciation. Voilà, donc on arrive comme ça à compter jusqu'à 60 000 ans avec une précision relativement bonne, hein, donc 2000 ans jusqu'à 60 000 ans. Puis on compare également à d'autres enregistrements bien datés. Alors notamment, il y a beaucoup de spéléothèmes, hein, c'est-à-dire des stalagmites ou des stalactites qui sont analysés et qui peuvent être datés précisément avec la méthode d'uranium-thorium. Et ces stalactites montrent des variations rapides lors de la dernière période glaciaire, dont on reparlera un peu plus loin. Donc ça permet de dater comme ça les carottes groenlandaises ou les carottes antarctiques qui enregistre également ces variations brutales du climat dans le méthane, dans la composition au méthane. Voilà, alors je vais passer peut-être là-dessus, parce que je n'aurai pas le temps, mais donc ce qui est également intéressant, c'est de synchroniser les carottes entre elles pour voir donc quelle est la relation de phase entre les variations climatiques aux différents endroits de la Terre. Donc ça peut être fait par les cendres volcaniques notamment. Voilà, donc une des découvertes majeures des carottes de glace, ça a été les variations de la composition en gaz à effet de serre des atmosphères passées à partir de ces bulles de gaz. Donc vous voyez ici, donc toujours pareil, la variation de température à partir du forage Vostok, et puis les variations en méthane, donc en vert, pardon, en CO2 en vert et en méthane en violet. De l'atmosphère issue des bulles de gaz. Donc, bon, vous connaissez certainement ces courbes, vous voyez donc tous qu'elles se ressemblent beaucoup, hein, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation très forte entre variation de climat et variation des deux principaux gaz à effet de serre. Alors, la question, évidemment, c'est de savoir quelle est la poule et quel est l'œuf, c'est-à-dire est-ce que ce sont les variations de climat qui induisent des variations de gaz à effet de serre ou l'inverse? En fait, c'est certainement les deux. Mais disons qu'en regardant par exemple ici la dernière déglaciation, hein, donc entre 10 000 et 20 000 ans dans le passé, on se rend compte qu'a priori, l'augmentation du CO2 est en retard de l'ordre de 800 ans par rapport à l'augmentation de la température. On observe également la même chose lors de la déglaciation qui est survenue il y a à peu près 240 000 ans, hein, donc ce qu'on appelle la terminaison 3. Donc, la vision qu'on a maintenant du système, c'est que le CO2 est un amplificateur des changements climatiques, mais que ce n'est pas forcément lui qui en est à l'origine, en tout cas dans le passé. et pour ces déglaciations. Voilà, alors la troisième grande découverte, donc après les variations astronomiques, après les variations de composition en gaz à effet de serre, donc ça c'était plutôt les années 80, cette fois-ci dans les années 90, ce sont les carottes groenlandaises qui nous ont livré un secret très, très, très intéressant et très riche d'enseignements pour le futur. Donc ce sont la présence de variations très rapides du climat lors de la dernière période glaciaire. Donc vous voyez ici la variation de température issue du forage de grippe ou du forage de North Grip au Groenland. Donc des événements très rapides, quelques dizaines d'années seulement, avec des amplitudes de température pouvant parfois dépasser 20 degrés. Voilà donc un zoom sur quatre de ces événements. On a ensuite retrouvé ces variations climatiques un peu partout dans l'hémisphère nord, en tout cas, donc dans les sédiments marins, dans les spéléothèmes, etc. Alors, ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est de voir comment variait le climat antarctique pendant que le climat du Groenland variait si brutalement. Donc pour ça, il faut synchroniser les carottes. Et ça peut être fait grâce au méthane, qui présente des variations communes dans l'atmosphère, donc aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Donc on peut synchroniser nos deux carottes grâce aux enregistrements de méthane qui sont représentés ici. Et puis, regardez comment l'Antarctique variait, donc ce sont trois carottes antarctiques ici, lorsque le Groenland variait si brutalement. Donc, ce qu'on voit, c'est que lors des périodes froides, qui s'appellent stades du Groenland, l'Antarctique se réchauffait progressivement, et par contre, lors des périodes chaudes, l'Antarctique se refroidissait. Donc, ce n'est pas une relation vraiment d'antiphase, puisque les signaux ne se ressemblent pas. Je vais passer là-dessus parce que je n'ai pas le temps. Donc, la vision qu'on a du système, c'est un système à bascule où le climat de la température de l'hémisphère nord bascule entre un mode chaud et un mode froid, et le climat de l'Antarctique bascule en opposition, sauf que il y a un réservoir de chaleur dans le sud qui fait que les variations climatiques sont plus lentes, plus progressives. Voilà, donc maintenant juste quelques perspectives. En fait, il y a un nouveau forage qui va se passer au Groenland, donc un projet qui s'appelle NEEM, qui va permettre, on l'espère, d'avoir accès à l'avant-dernière période interglaciaire, il y a 130 000 ans. Donc c'est une période plus chaude que l'actuelle, donc qui pourrait être une sorte d'analogue pour le futur, pour le climat du 21e siècle. Puis on a également pour projet d'aller faire un forage à Doma, c'est le sommet de la calotte antarctique, pour obtenir de la glace encore plus ancienne, peut-être, on espère avoir plus de 1,2 million d'années. Donc c'est une période climatique qui est intéressante parce qu'on n'observe plus ces grands cycles en dents de scie à 100 000 ans, mais on observe des variations climatiques principalement à 40 000 ans, donc qui sont liées à l'obliquité. Voilà. Et donc c'est la fin de mon exposé.
Bien, merci beaucoup. Alors on va faire comme pour l'exposé précédent, une question urgente. Y a-t-il une question ? Oui.
Oui.
Attends.
Non, ça marche pas.
Si.
Ça marche. Non, ça marche pas. Avec les élèves, il y a une difficulté. On regarde les variations de température en Antarctique et on interprète en fait, et on passe très rapidement dessus, en variation globale, de la température globale. Alors, existe-t-il une relation entre les variations antarctiques et les variations de température globale ?
Alors, oui, c'est une bonne question, c'est une question difficile. Oui, il existe une relation. En général, c'est-à-dire que les périodes glaciaires sont des caractéristiques globales qui s'observent à la surface de tout le globe. Par contre, dans le détail, ça peut être différent, puisqu'on voit bien que lors des événements de Dansgaard Oeschger, il y a une relation opposée entre le Groenland et l'Antarctique. Voilà ce que je pourrais vous répondre. D'autre part, l'Antarctique, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un continent qui est assez isolé du reste, donc il est pas trop soumis à des variations locales qui seraient dues à des modifications des courants océaniques ou ce genre de choses. Donc il est quand même caractéristique de variations à une grande échelle spatiale, quoi. Voilà. Donc les cycles glaciaires-interglaciaires, typiquement, tout ce qui est variation orbitale du climat sont communes à l'hémisphère nord, à l'hémisphère sud. Par contre, les variations millénaires ne sont pas communes et se peuvent même être opposées.